qu'elle soit de la civilisation du dessus.
Thomas Hugues.
Sans aucun doute.
Sidonie Bonnec.
Qui es-tu? Mais d'où viens-tu?
Je suis Arcana, messagère de la cité d'Arcadia.
Cité d'Arcadia?
Les curieux sont sur RTL.
Le grand cataclysme a englouti les continents les uns après les autres, a soulevé l'île d'Arcadia de la surface de la Terre, l'a arrachée à sa racine, l'a jetée, puis engloutie dans l'océan.
Extrait, c'était un dessin animé, c'est ça, François Touchard?
Exactement, à la même époque que les Mitterrandes Cité d'Or.
Ah voilà, les mondes engloutis, c'est pas tout à fait ma génération.
C'était mon enfance, mais je l'ai pas beaucoup vu celui-là.
Bon, bah, merci de raconter votre vie. Sinon, c'est une BO signée Vladimir Cosma. Bonjour Virginie Giraud, je vous promets, je vais être très sympathique avec vous. Je sais pas ce que j'ai contre Sidonie Bonnec, mais je
pas,
pense que je vais la chambrer aujourd'hui.
De toute façon, aujourd'hui. Vous êtes toujours sympathique avec moi, donc moi je suis contente de venir.
Vous avez raison, le plus important c'est ça,
voilà,
moi je me débrouille.
C'est nos invités. On est très heureux de vous retrouver. Vous êtes docteur en histoire, vous participez à ce numéro d'Historia sur la grande histoire des cités englouties. C'est en partenariat avec RTL. On parlait de l'avenir en fait en question, la Camargue, la Rochelle. J'ai découvert ça il y a quelques jours. Elles font partie des sites français qui sont menacés par la montée des eaux, dans quels il y a des scénarios qui sont proposés par les scientifiques du GIEC, c'est ça?
Oui, voilà, effectivement, le GIEC a fait des projections, donc ce ne sont que des projections, des hypothèses qui, selon lesquelles, effectivement, certains sites en bord de mer pourraient être en danger d'ici quelques décennies ou quelques centaines d'années. Donc on attend de voir ce qui se passe, mais en attendant, on peut quand même anticiper, et puis l'histoire a prouvé que l'homme a toujours su s'adapter.
Oui, c'est vrai, et c'est pour ça aussi qu'on va regarder dans le rétroviseur, plonger dans le passé pour comprendre ce qu'une montée des eaux peut provoquer dans une ville. Et on va commencer par l'histoire de Tignes, Virginie Giraud. On est le 15 juin 1952. Pourquoi cette date, elle est marquante?
Eh bien, c'est le moment où le barrage de Tignes va être mis en place, c'est-à-dire on va ouvrir enfin les vannes, ce qui va permettre de remplir la cuvette de Tignes et donc d'immerger ce village qui contenait 400 âmes qu'on a dû évacuer de force, puisque le projet était ancien, il datait des années 30, et l'idée était de construire un barrage qui permettrait de produire jusqu'à 5% de l'énergie française. Donc c'était un très très gros projet à l'époque, mais il fallait pour cela évacuer ce village qui comptait donc quelques centaines d'âmes.
Alors j'imagine que les habitants de Tignes ont fait de la résistance.
Effectivement, il paraît que les Savoyards sont têtus et ils l'ont prouvé puisqu'ils ne voulaient absolument pas quitter leur village. Ils ont même fait avec le maire un recours en justice contre EDF, ce que l'État a évidemment très mal pris, et ils ont envoyé les CRS pour vider le village, obliger les gens à quitter leur maison quelques jours avant l'immersion du site, détruire les maisons pour qu'ils ne reviennent pas et même enlever les cloches du clocher de l'église de Tignes pour ne plus pouvoir y célébrer les messes.
Alors on a raconté un peu tout ce qui s'était passé, mais on peut reprendre un peu étape par étape. Moi j'essaie d'imaginer ce qui se passe visuellement, c'est-à-dire que quand le barrage s'ouvre, l'eau met beaucoup de temps à envahir le village, ça va très vite ça?
Ça prend probablement 2 ou 3 jours même, mais il faut qu'il n'y ait plus personne parce qu'on ne peut pas de cadavres non plus qui traînent au milieu de ce barrage. Oui. Donc effectivement l'évacuation va être très très compliquée et va se faire de force, parce qu'il faut savoir c'est que même quand les autorités publiques ont retiré les cloches de l'église, donc pour empêcher la célébration de Pâques en 1952, les Tignards obstinés sont retournés sur le site et ont quand même célébré leur messe alors que l'église n'était officiellement plus en service.
Ouais. Donc il y a cette procédure menée par le maire de Tignes contre l'État pour essayer d'empêcher le barrage de voir le jour. C'était un projet économiquement important pour la France de ce début des années 50. Ce barrage, vous l'aviez dit rapidement, mais il pesait lourd dans le projet énergétique français.
Oui, tout à fait. C'était vraiment central au niveau du projet énergétique français, puisque le but était d'avoir des centrales de plus en plus performantes et déjà écologique d'une certaine manière, puisqu'on était basé sur la puissance de l'eau pour faire tourner les turbines.
Le maire, qu'est-ce qu'il met concrètement en place pour empêcher la construction de ce barrage, Virginie Giraud?
Il va essayer d'avoir des recours en justice, comme j'ai dit tout à l'heure, sauf que l'État ne va pas se laisser faire, puisque EDF était à l'époque entièrement à l'État et qu'il n'était pas question de fléchir pour 400 personnes.
Et c'est vrai que la police est venue détériorer les habitations de... Il faut imaginer quand même cette scène, on est chez soi dans sa maison et en fait on est exproprié, c'est ça?
Expulsé.
Et on nous abîme, on casse notre habitat pour pas qu'on y reste.
Voilà, c'est ça. Les gens ont été prévenus. On leur a dit, vous avez quelques mois pour vendre vos propriétés à l'État ou à pas d'autres personnes, parce que personne n'allait les racheter. Et du coup, effectivement, comme les Tignards refusent, eh bien, les CRS vont être obligés de venir, de faire sortir les gens de leur maison, et pour être sûr qu'ils ne reviennent pas, on détériore. Mais c'est exactement ce qui s'est passé à un autre niveau à Tchernobyl. C'est l'armée qui a détérioré les bâtiments de Pripyat pour que les gens ne reviennent pas y habiter. Mmh. Ce sont des précautions que l'on prend très souvent dans ce type de situation.
Est-ce qu'on voit, un morceau du village ou le bout du clocher de l'église de Tignes, enfin du vieux village de Tignes aujourd'hui?
Exactement. Quand le niveau du barrage est assez bas, on voit émerger le sommet du clocher. D'ailleurs, on le voit dans une série de Canal+, Les Revenants, servir effectivement de décor aux scènes un petit peu fantomatiques de la série.
Que s'est-il passé donc après l'expulsion de ces habitants de Tignes? Est-ce qu'ils ont trouvé un autre endroit? Oui, on le sait, puisque Tignes existe toujours. Mais où est-ce qu'ils se sont installés pour reconstruire leur village?
Eh bien, ils ont refondé la nouvelle Tignes sur les hauteurs, donc pas très loin. Et donc, c'est devenu la station de ski que l'on connaît aujourd'hui. Mais il faut savoir que tous les 10 ans, eh bien, on purge le barrage pour l'entretenir, tout simplement. Et que du coup, on voit réémerger des sols, ces maisons détériorées, l'église. Et il se raconte que les Tignards, les plus vieux, je pense, reviennent en procession tous les 10 ans pour voir les vestiges de leur village. Et il paraîtrait même qu'on baptise encore des enfants sur les fonts baptismaux de l'église abandonnée.
Ah, pour des enfants qui sont nés quelques mois ou quelques années avant, on attend pour les baptiser là, c'est étonnant. Vidanger un barrage, c'est un événement, Virginie Giraud, un peu partout, on peut l'imaginer. Par exemple, en 2015, en Bretagne, avec le barrage de Guerre-les-Dents, vous y étiez. Comment ça se passe quand on vidange un barrage?
Mais justement, je voulais le voir de mes yeux. Il s'avère qu'à Guerre-les-Dents, quand on vidange le barrage, on retrouve un petit village qui était un ancien gué. Donc on voit quelques petites maisons le long d'un canal, on voit une route, des arbres fantomatiques qui sont émergés dans l'eau depuis 30 ans. Donc c'est un paysage désertique.
Et il paraît que vous et votre famille, vous êtes lancé un défi autour de ce barrage. C'est quoi, Virginie?
Oui, vous êtes bien informée, effectivement. Bah, dans les familles d'historiens, on a des idées un peu tordues, en fait. On s'est dit qu'on allait cacher une boîte métallique à l'intérieur d'un des murs de cette maison, avec des objets qui appartiennent à tous les membres de cette famille, de la mienne en l'occurrence, et que nous allions revenir dans 30 ans, tous ensemble, pour essayer de retrouver notre boîte. Donc avec un détecteur à métaux pour essayer de la retrouver dans le mur. Mais comme on a fait ça comme des amateurs alors qu'on est professionnels, on n'a pas cartographié le site et je pense qu'on va avoir un peu de mal à le retrouver.
Ah, mais c'est drôle.
On essaiera.
Vous avez laissé quoi comme objet, vous pouvez nous le dire?
Ah, on a laissé des objets de mariage, on a laissé la girafe Sophie de ma fille aussi.
Génial,
c'est mignon. Mais des chercheurs de trésors, on en croise quand un barrage est vidangé. Il y a beaucoup de gens qui espèrent trouver des trésors.
Exactement, à Guerre-les-Dents, c'est le cas. En fait, dès qu'on vidange le barrage, on voit tous les détectoristes arriver avec des détecteurs à métaux pour rechercher tout ce que les baigneurs ont perdu pendant 30 ans, puisque le site sert de plan d'eau aussi. Donc les gens viennent pour y passer l'été, pour faire du bateau, pour nager. Et c'est un peu une chasse au trésor. Bon, dérisoire, on trouve quoi? On trouve des trousseaux de clés, quelques pièces de monnaie, rien de fou. Mais il y a le plaisir d'espérer trouver quelque chose.
RTL.
Bonjour messieurs. Je remercie le conseil d'administration d'avoir pris le temps de m'entendre lui exposer mon projet. Tout le monde connaît la légende de l'Atlantide, cette île quelque part au milieu de l'Atlantique que peuplait une civilisation évoluée qui possédait une technologie fort supérieure à la nôtre.
La curiosité est un vilain défaut.
L'Atlantide est tout sauf une légende.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
L'idée que je propose serait de trouver l'Atlantide et la remonter à la surface.
La grande histoire des cités engloutées de l'Atlantide, évidemment, c'est le thème de notre curiosité. Et le titre aussi du magazine Historia qui publie une série d'articles passionnants. C'est en partenariat avec RTL et nous sommes avec l'historienne Virginie Giraud. Vous êtes docteur en histoire et cette Atlantide, on entendait dans la mise en nom de François Touchard, c'est sauf une légende, dit ce film, l'Atlantide, l'Empire perdu, c'est un film d'animation. C'est vrai que c'est tout sauf une légende?
Alors, c'est un peu plus complexe que ça, effectivement. C'est une légende, mais c'est une légende qui part d'un mythe philosophico-politique et qui est sans doute un mythe tout bonnement inventé par Platon.
Donc c'est une histoire.
Enfin, c'est une histoire.
Voilà, ça c'est sûr. D'accord.
Et Platon était un philosophe qui a vécu au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, donc l'un des grands penseurs de cette époque. Et il écrit de nombreux mythes philosophiques. Il met en scène des discussions entre des personnages. On se souvient tous du banquet qu'on a tous étudié en terminale. Et là, effectivement, il écrit deux dialogues, le Timée et le Critias, donc avec les personnages éponymes, qui vont avoir une discussion au sujet d'une île continent qui se trouverait au-delà des colonnes d'Hercule, donc au-delà de Gibraltar, dans l'Atlantique, et qui s'appellerait l'Atlantide. Et il s'agit d'une sorte de civilisation effectivement avancée, mais pas comme on l'a imaginé au XXe siècle, avancée dans le sens où elle était beaucoup plus politiquement fine, mais surtout tyrannique. C'est-à-dire qu'il y avait des tyrans qui régnaient, des tyrans qui avaient des velléités expansionnistes, qui voulaient sans doute conquérir la Méditerranée. Et dans le dialogue de Platon, eh bien, il nous raconte que qui a osé s'opposer à ces méchants de l'Atlantide, eh bien, c'était les Grecs, puisque c'était les champions de la liberté. Et donc, il n'y avait qu'eux pour s'opposer à cette tyrannie.
Donc ça, c'est le mythe inventé par Platon. Est-ce qu'il parle de l'engloutissement de cette cité tyrannique dans l'histoire originelle, on va dire, dans l'histoire du départ?
Eh bien, dans l'histoire de Platon, effectivement, ce continent-île... connaît une fin tragique, une sorte de punition divine, hein, quelque part en réalité, puisqu'ils sont tellement méchants et sont tellement violents qu'il va y avoir un tremblement de terre gigantesque, un tsunami, et que l'île va se disloquer et sombrer au fin fond des océans. Donc en gros, ce sont vraiment les dieux qui les condamnent et qui font disparaître cette cité, hein. Il faut rappeler que dans l'Antiquité, les gens sont extrêmement superstitieux.
Ah, est-ce que vous nous l'avez dit, mais Platon, il situe cette Atlantide?
Oui, il la situe.
Sur la carte du monde?
Alors, bien sûr, c'est pas une géolocalisation très précise, mais il la situe donc au-delà des colonnes d'Hercule, donc au-delà du détroit de Gibraltar. Donc dans une zone qui est très très peu connue dans l'Antiquité, puisqu'on navigue pas vraiment au-delà.
Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a cherché ces dernières années, enfin même tous ces derniers siècles, l'Atlantide, c'est le mystère ultime. Où est-ce qu'on l'a cherché et où est-ce qu'on pense l'avoir trouvé, cette Atlantide?
Eh bien, effectivement, il y a des chercheurs qui l'ont cherché et qui penseraient l'avoir trouvé, mais pas dans l'Atlantique, en mer Méditerranée ou plus proche de la Grèce, en mer Égée, puisqu'il y a une île qui s'appelle Santorin. Donc, son nom antique, c'était l'île de Théra. Et si les gens y sont allés, ils voient à peu près la forme de cette île qui a une forme circulaire avec une espèce de trou au milieu. Donc c'est assez étonnant. Et en fait, il s'agit d'un ancien volcan avec une caldeira, donc le cratère du volcan. Et ce volcan est entré en éruption aux alentours de 15 000 avant Jésus-Christ. La caldeira a littéralement explosé, elle a propulsé dans le ciel plus de 60 km cubes de débris volcaniques. Et donc le milieu de l'île s'est totalement effondré, s'est rempli d'eau, ce qui a provoqué à la fois un tremblement de terre et un tsunami en mer Égée.
Donc elle a été engloutie, cette île. Est-ce que pour autant il y avait une civilisation, est-ce qu'on a trouvé des traces, vous voyez, de présence humaine sur cette île?
Eh bien, évidemment, les archéologues ont cherché, puisque vu que le faciès de l'île ressemblait au mythe de l'Atlantide, eh bien, ils ont dépoussiéré un petit peu ce qu'il en restait. Et effectivement, ils ont découvert un site archéologique qui s'appelle Akrotiri, qui était une ancienne ville de cette île, Théra, donc l'actuel Santorin. Un site archéologique qui date vraisemblablement de l'époque de l'éruption. Donc on a fouillé un peu comme on l'a fait à Pompéi, mais on n'a pas trouvé de cadavre, contrairement à Pompéi. Ça veut dire que les gens ont senti les signes précurseurs du drame, sans doute des secousses telluriques récurrentes depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qu'ils ont décidé de quitter le site avant le drame.
On va raconter maintenant une autre histoire de cités englouties. C'est l'histoire d'Alexandrie, la magnifique Alexandrie. Vous nous rappelez quand et par qui elle a été créée et vous nous la situez sur la carte?
Alors Alexandrie se trouve dans le delta du Nil, hein, donc c'est une ville qui existe toujours aujourd'hui, une des principales villes de l'Égypte. Et il s'avère qu'un certain Alexandre le Grand, en 330, passe dans le coin. Il trouve le coin intéressant et dit tiens, j'y ferai
bien
une
construire.
Ville. Voilà, c'est ça.
C'est pas cher.
Et quand
c'est
Alexandre le Grand décide de construire, comme son nom l'indique, il le fait en grand.
Ah bah oui, il faut que ce soit grandiose.
C'est une capitale impressionnante, c'est ça ?
Exactement. Donc il fait dessiner par ses architectes une ville magnifique avec un beau plan hypodamique, hein, donc des rues en angle droit comme à Manhattan.
Mais ben ça, un plan
hypodamique.
Hypodamique, très bien.
Et donc on a ce port qui arrive dans la mer Méditerranée, qui est un port de forme arrondie, mais surtout, comme il y a la folie des grandeurs, effectivement il veut faire quelque chose de grandiose et il fera construire un peu plus tard, donc un objet qui va rentrer dans la catégorie d'une des sept merveilles du monde, puisqu'il s'agit du célèbre phare d'Alexandrie.
Il y a la bibliothèque aussi d'Alexandrie qui était
bien
réputée.
Sûr.
C'était quoi? C'était une sorte de temple du savoir de l'époque?
Exactement. Tous les grands manuscrits de tous les grands auteurs du monde antique qui étaient réunis sous la forme de papyrus, hein, qui étaient roulés dans des boîtes rondes, qui s'appellent les capsae en latin. Et effectivement, c'était le lieu où tous les grands intellectuels venaient se former. Donc aujourd'hui, il y a toujours une bibliothèque à Alexandrie, donc qui n'est pas aussi réputée que celle de l'Antiquité. Néanmoins, c'est toujours un plaisir d'y aller.
Et si on parle d'Alexandrie dans cette émission sur les cités englouties sur RTL, c'est évidemment parce qu'elle a, elle aussi, été dévastée. Alors, en plusieurs fois, on va expliquer ça. Virginie Giraud, la première fois, c'est près de, si j'ai bien compté, 7 siècles après la création de la cité. On est le 20, c'est précis, hein, le 21 juillet 365. Et là, il y a une quoi ? Une catastrophe naturelle majeure, c'est ça ?
Effectivement, il va y avoir une catastrophe naturelle majeure. Donc il faut imaginer que on commence la journée de manière tout à fait normale à Alexandrie, le ciel est calme, voilà, les marchands sont sur les docks comme d'habitude, et puis d'un seul coup, les cornes se mettent à siffler sur le phare d'Alexandrie, on a l'impression qu'un drame se prépare, et là, les gens peuvent voir la mer se retirer d'un seul coup, un tremblement de terre commence, un tremblement de terre extrêmement violent, de magnitude qu'on évalue à 8,5 sur l'échelle de Richter, donc c'est gigantesque.
Qui provoque un tsunami, c'est ça ?
Exactement, qui va provoquer le tsunami, donc la mer s'est retirée et après plusieurs minutes de tremblement de terre, la mer revient sous la forme d'une vague de 12 mètres d'eau, donc ça fait à peu près un immeuble de 4 étages. Hein. Donc quand les gens voient ça sur les docks, ils sentent bien que la fin est proche et donc cette vague gigantesque va venir submerger toute une partie de la ville et le tout couplé avec le tremblement de terre va faire que toute la partie avant de la ville, toute la partie du port va s'effondrer, s'affaisser et littéralement être engloutie par les flots.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues sur RTL.
Mon nom est Andrew Ryan.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine. Cette cité peut aussi devenir la vôtre.
On découvre l'histoire des cités englouties dans la curiosité sur RTL. Et c'est là qu'on voit qu'on est une équipe quand même assez complémentaire. Parce que par exemple, ça.
Non, je n'ai pas prononcé le mot. Voilà, c'est ça que vous attendiez.
Si, non, mais Bioshock ou Bioshock, ouais. Oui. C'est quoi Bioshock,
c'est François Touchard, notre
réalisateur. Bioshock, c'est un jeu de Ken Levine qui raconte l'histoire d'une cité imaginaire sous la mer, comme on vient de l'entendre, pour échapper à toutes les dictatures que Andrew Ryan imagine sur notre planète.
Ouais, bah, j'y aurais pas pensé, hein. Donc, heureusement que vous êtes là. Merci, François. Et donc, on découvre l'histoire de ces cités englouties avec Virginie Giraud. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et que vous avez participé à ce numéro du magazine Historia en partenariat avec RTL. Donc, on racontait Alexandrie, ville créée, 3 siècles avant notre ère par Alexandre le Grand, avec notamment cette bibliothèque d'Alexandrie, Temple du Savoir, avec ce phare gigantesque qui était l'une des 7 merveilles du monde. Premier tremblement de terre suivi d'un tsunami qui détruit en partie Alexandrie, mais la ville se relève. C'est une histoire de résilience aussi qu'on raconte.
Exactement, c'est une histoire de résilience, vous avez tout à fait raison, et ce qui prouve que les humains savent s'adapter et savent rebondir en cas de problème face à l'adversité, puisqu'il s'avère que Alexandrie a été littéralement détruite par ce premier tsunami, ce tremblement de terre de 365. Mais néanmoins, même si toute la partie avant de la ville a disparu, même si on a perdu l'emplacement du tombeau d'Alexandre le Grand, hein, qui était un haut lieu touristique de l'Antiquité, eh bien la ville s'est relevée, elle a continué à exister et elle est restée un des grands centres culturels de l'Orient, de la Méditerranée.
Mais elle a quand même fini par être totalement engloutie. Comment ça s'est passé ?
Totalement engloutie, non. C'est vraiment la partie avant de la ville antique qui a disparu, mais elle s'est en partie reconstruite, elle a continué à évoluer et elle continue à exister. C'est-à-dire qu'une ville, c'est une matière vivante. On retrace en permanence les rues, on construit de nouveaux bâtiments, on détruit les plus anciens et puis quand quelque chose se passe, ben, la vie va de l'avant. On n'abandonne pas un site comme Alexandrie qui est au cœur du delta du Nil, donc un site qui est à la fois sur un positionnement économique et géographique extrêmement intéressant. Donc on ne quitte pas cette ville, on lui donne un nouvel essor à chaque fois et c'est ce qui va se passer jusqu'à encore un nouveau tremblement de terre au 14e siècle qui va détruire à nouveau une partie de la ville. Mais comme vous le disiez, les Alexandrins sont résilients, ils vont à nouveau reconstruire et Alexandrie va une nouvelle fois renaître de ses cendres pour devenir quelque part la ville que l'on connaît maintenant.
Et on l'a compris avec vous Virginie Giraud, il y a une partie engloutie évidemment sous l'eau comme un musée sous l'eau de cette ville d'Alexandrie. Il y a l'archéologue français Jean-Yves Empereur avec son équipe qui est parti découvrir les merveilles. Qu'est-ce qu'il a découvert ? Quel trésor il a découvert sous l'eau ?
Eh bien il a découvert un trésor quasiment inestimable puisqu'il a retrouvé notamment les restes du fameux phare d'Alexandrie. Donc c'était un petit peu le site que tout archéologue de l'Égypte voulait retrouver.
C'était le Graal, oui.
C'était l'un des Graals, effectivement. effectivement, hein, comme la tombe de Cléopâtre. D'ailleurs, on a des doutes, mais ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'était l'un des graals de l'archéologie pour les spécialistes de l'Égypte. Et en plongeant, il a retrouvé des blocs gigantesques qu'il a cartographiés avec son équipe. Et il a ainsi retrouvé à quoi ressemblait ce phare. Et il a pu le dessiner à nouveau en se servant d'autres objets archéologiques, d'ailleurs, comme des pièces de monnaie sur lesquelles le phare était représenté.
Mais dans quel état ? C'était bien conservé ?
C'était façon puzzle. Hein.
D'accord. Ça avait subi le tsunami. Quoi,
ça veut dire qu'il a pu reconstituer même physiquement une partie de ce phare. Est-ce qu'il a sorti les blocs de... Les blocs, c'était en quoi d'ailleurs le phare d'Alexandre,
vous savez ? Je crois qu'il était en grès, mais j'ai des doutes.
Et ces blocs de pierre, en tout cas, est-ce qu'ils ont été sortis ou ils sont restés comme ça, tel un musée éternel au fond de l'eau ?
Alors, une partie est restée sous l'eau, effectivement, ouais. Et comme vous dites, ça forme une sorte de musée qui est sous l'eau. D'ailleurs, il y a même des centres de vacances qui proposent à des plongeurs d'aller visiter les tréfonds d'Alexandrie sous la mer. Il y a même un projet de musée aussi, avec une partie immergée, de manière à voir le tracé des rues de l'antique Alexandrie. Et on remonte aussi quelques objets quand on peut. Alors, ce qu'on va remonter, c'est pas tant les blocs du phare qui, finalement, sont souvent des blocs quadrangulaires sans grand intérêt à exposer dans un musée. Ce qu'on remonte, ce sont bien évidemment les statues magnifiques, parce qu'il y en avait beaucoup pour décorer la ville d'Alexandrie. Et on a remonté notamment une espèce de grand buste pharaonique qui est aujourd'hui déposé à la bibliothèque d'Alexandrie, donc la bibliothèque actuelle, où finalement le passé regarde le présent et se met en abîme.
Virginie Giraud, il y a un tourisme des cités englouties ?
Oui, bien sûr, il y a un tourisme des cités englouties, donc c'est le cas à Alexandrie, mais c'est aussi le cas en Italie, tout près de Naples, dans le golfe de Naples, puisqu'il y a une ancienne cité qui s'appelle Baïa, qui était la grande station balnéaire de l'Antiquité romaine, hein, c'était un peu la Saint-Trope de l'époque. Et cette ville était très prisée par toute l'aristocratie, 1er, 2e, 3e siècle de notre ère, et comme cette zone de la baie de Naples est une zone de bradicéisme, donc c'est...
Ça veut dire quoi?
Alors un bradicéisme, c'est un phénomène géologique où le sol s'affaisse et se relève sur un temps très lent, ça se compte en siècles, hein. Mais du coup le sol est mobile, il monte et il descend en permanence, et il n'y a que 3 endroits dans le monde où ce phénomène existe, donc en Californie, en Nouvelle-Zélande et dans le golfe de Naples. Et donc cette station balnéaire de Baïa a été construite à cet endroit, donc il faut imaginer des villas extrêmement fastueuses, hein, parce qu'on a l'empereur qui va en vacances, on a des gens extrêmement riches, c'est toute la jet set, hein, c'est bling bling à mort. Il y a l'empereur Claude qui fait construire un magnifique nymphée, donc c'est une grande fontaine publique avec plein de statues, donc là aussi, hein, c'est des architectures qui sont totalement délirantes. Et il y avait des thermes aussi qui étaient extrêmement célèbres, parce que ces thermes étaient mixtes, donc c'est-à-dire que les hommes et les femmes pouvaient s'y rencontrer. J'aime autant vous dire que c'était un lieu...
C'était pas juste pour se nettoyer en fait, pour être propre.
Pas là.
Ah, c'est ça. Pas là. D'accord, très bien. Un lieu de rencontre.
Un lieu de rencontre et de, et de plaisir. Et donc cette cité, avec ce que vous nous avez... J'ai appris, merci, le mot de bradicéisme. Donc cette cité a fini par être engloutie. Et aujourd'hui, on peut, c'est quoi ? On peut faire des plongées ? On peut, il y a un circuit en quelque sorte qui est proposé ?
Effectivement, tout à fait. Donc toute la partie avant de la ville, parce que c'est construit sur une caldeira. Encore une fois, toute la partie basse de la caldeira est aujourd'hui immergée. Elle a sombré dans les flots petit à petit au fil des siècles. Et aujourd'hui, quand on plonge, on peut voir le tracé du port avec ses rues. On peut voir des villas avec des mosaïques. On peut voir des magnifiques statues. Et il y a même vissé sur le sol sous-marin des plaques avec le sens de la visite pour les gens qui savent faire de la plongée. Donc on descend avec ses bouteilles, ses palmes, et on se promène dans les villas antiques sous l'eau. C'est assez magique.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Virginie Giraud. La grande histoire des cités englouties, c'est donc à lire dans le magazine Historia, et c'est en partenariat avec RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.